soit le Seigneur. Loué soit Dieu pour sa bonté. Combien c'est doux, combien c'est merveilleux de pouvoir passer ces moments ensemble dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Dimanche prochain, on reprendra avec le temps de la Sainte Cène. Nous allons préparer tout ce qu'il faut cette semaine pour que la semaine prochaine nous puissions aussi reprendre cette partie si importante, mais qui n'a de la valeur que si elle est vécue véritablement avec le cœur. Ce n'est pas le fait de manger un petit bout de pain et de prendre le vin qui nous met en communion les uns avec les autres. La communion, elle est déjà scellée et elle doit être présente dans nos cœurs. Et nous approcher de ces symboles, ce n'est que pour nous un engagement de plus de dire « Seigneur, je confirme et j'affirme encore ce matin que je veux être et je veux vivre selon ta parole. Mais Seigneur, je me dois aussi d'un examen personnel pour être aux normes qui sont les tiennes. Le pain reste du pain, le vin reste du vin, mais c'est la valeur que nous donnons avec notre attitude et notre comportement qui sont aux yeux de Dieu une bénédiction ou qui peuvent nous attirer aussi des conséquences. Et vous connaissez bien cela que la parole de Dieu dit. Amen. Donc on aura la joie de reprendre avec la Sainte Cène la semaine prochaine. Mais je voudrais vous inviter ce matin à partager une pensée avec moi. Le titre du message, c'est « Vivre au gré des vents ou plaire à Dieu ». Vendredi matin, j'étais dans mon bureau et je crois comme vous tous, on voyait ce vent souffler de manière assez forte et je disais « Seigneur, quel est le message pour dimanche ?» Et le vent soufflait encore plus fort, jusqu'au moment où finalement j'ai entendu. Parfois on peut être un peu sourd, mais Dieu soit béni parce qu'il sait se faire entendre. Et la question qui est venue sur mon cœur est celle-ci, est-ce que nous vivons au gré des vents ou est-ce que nous faisons ce qui plaît à Dieu? On va faire une lecture ensemble dans le livre des Actes au chapitre 27, à partir du verset 1. Actes, chapitre 27, à partir du verset 1 au verset 25. On est dans cette phase où l'apôtre Paul a été jugé en première partie. Et là, il est conduit à Rome, puisqu'il est d'origine romaine du côté de son père, et il fait appel à César. Et il est amené à Rome parce que c'est le plan de Dieu pour que l'évangile arrive aussi à Rome, n'est-ce pas? Malgré que le cheminement pour aller à Rome n'est pas facile et la manière d'y aller, elle correspond tout à fait à ce que Dieu avait révélé dès le démarrage du ministère de l'apôtre Paul. Il savait qu'il allait souffrir pour le nom de Christ. Mais lisons ensemble cette parole du Seigneur pour nous encore ce matin. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte impériale du nom de Julius. Monté sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, nous avons gagné le large et avec nous se trouvait Aristarque, un Macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous avons abordé à Sidon. Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous avons longé la côte de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous sommes arrivés à Myre et à Lycie. Là, le centenier trouva un navire d'Alexandrie à destination de l'Italie, et nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement. Nous avons atteint à grande peine les parages de Cnide, et comme le vent ne nous permettait pas d'aborder, nous avons longé la crête vers Salonée. Et là, côtoyant avec peine, nous sommes arrivés à un lieu appelé Beauport, près duquel était la ville de Lassée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car le jeûne était déjà passé. C'est pourquoi Paul leur donna cet avertissement. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Mais le centenier se fia au pilote et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de Paul. Et comme le port se prêtait mal à l'hivernage, la plupart furent d'avis de remettre la voile pour atteindre, si possible, Phénix, port de la Crète, tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler. Ils pensèrent être en mesure d'exécuter leur projet, levèrent l'ancre et côtoyèrent de près la Crète. Mais bientôt, après, venant de l'île, un vent de tempête appelé Eurachion se déchaîna. Le navire fut entraîné sans pouvoir tenir contre le vent, et nous nous sommes laissés aller à la dérive. Tandis que nous passions au-dessus d'une petite île appelée Clauda, nous avons réussi avec peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceinturer le navire et de la crainte d'échouer sur la Syrte, on abaissa la voile. C'est ainsi qu'on allait à la dérive. Fortement secoué par la tempête, on jeta le lendemain une partie de la cargaison et le troisième jour, ils lancèrent de leurs propres mains les agrès du navire. Ni le soleil, ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours et la tempête se maintenait si forte que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu des hommes, leur dit « Vous auriez dû m'obéir et ne pas repartir de Crète. Vous auriez évité ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le navire sera perdu. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et rend un culte, s'est approché de moi cette nuit et m'a dit « Sois sans crainte, Paul. » Il faut que tu comparaisses devant César, et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera, comme il m'a dit. Amen. En faisant cette lecture, nous voyons un contexte bien particulier, une situation bien spécifique. Mais ça commence par nous avertir et nous confirmer cette promesse de Dieu, que Dieu prend soin de ses enfants. L'apôtre Paul, qui se trouvait prisonnier, est confié auprès d'un centenier qui s'appelait Julius, donc un Romain. Dieu avait fait que dans le cœur de Julius, il y a un regard particulier pour l'apôtre Paul. Et le texte nous dit qu'il le traitait avec beaucoup de bienveillance, lui permettant d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. L'apôtre Paul était amoindri, certainement physiquement. Je vous rappelle que ça faisait un long moment qu'il était déjà emprisonné, injustement, et malgré tout, la situation étant compliquée, Dieu ne manquait pas de prendre soin de lui. Et je crois que, quelle qu'il soit la situation et les circonstances que nous traversons, Dieu prend soin de nous. Il dispose même le cœur de Julius qui était là en effet pour l'amener comme prisonnier. Il dirige le cœur de Julius à avoir de la compassion, à avoir de la bienveillance, dit le texte, pour l'apôtre Paul, et lui permettre d'aller auprès de ses amis, lui permettre de recevoir les soins dont il avait besoin. Je vous rappelle qu'à ce temps-là, ceux qui étaient emprisonnés ne mangeaient que si la famille pourvoyait, n'étaient soignés que si la famille payait un médecin pour le soigner. Autrement, il mourait comme il était. Il n'y avait pas autant de soins qui étaient donnés. Ça faisait partie, je dirais, quelque part de la punition. Si quelqu'un a pitié de toi, tu mangeras et tu seras soigné. Et peut-être tu sortiras de prison, cas échéant, un de moins. La comptabilité, elle était assez simple, sommaire, n'est-ce pas? Et là, on voit que Dieu prend soin de l'apôtre Paul. Mais on voit aussi deux situations bien particulières. Et c'est là que notre réflexion nous amène ce matin sur le mode de fonctionnement du monde et celui des enfants de Dieu, celui qui devrait être. Parce qu'entre l'être et le faire, parfois, il y a un peu de distance et parfois, c'est très, très vague. Il dit le texte que les vents étaient contraires, mais que malgré tout, ça faisait partie aussi du type de situation qu'un navire pouvait rencontrer. Je vous rappelle que, en effet, ces navires qui transportaient des marchandises, le personnel à bord n'était payé que si le navire arrivait à bon port. De là la responsabilité de chacun de tout mettre en œuvre. Mais en même temps, tout le monde voulait arriver à bon port pour toucher des sous. Donc, malgré les dangers, beaucoup étaient prêts à prendre tous les risques pour gagner. Et on voit que l'appât de l'argent, l'appât de la fortune emportait souvent sur la sagesse. Et dans le monde, on réfléchit comme ça. Mais l'apôtre Paul, il est dans cette situation, malgré lui, c'est pas lui qui a choisi. Dieu l'a conduit dans une situation et il est amené, mais il ne manque pas de chercher auprès de Dieu la sagesse. Et quelles qu'ils soient les circonstances, les endroits où nous nous trouvons, il est question pour nous de faire toujours appel à la sagesse de Dieu. Mais on voit le navire partir et dit « Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement ». Presque à dire que c'était un peu une petite balade. Mais, je vous rassure, ce n'était pas une croisière de plaisir. Les repas n'étaient pas ce qu'on peut imaginer dans une belle croisière. Il n'y avait pas de spectacle, il n'y avait pas de piscine, il n'y avait pas tout ça. Il y avait juste des forces qui ramaient. Et peut-être qu'encore aujourd'hui, il y en a qui rament dans leur vie. Et c'est de là aussi qu'il vient le mot « ramer » ou « vivre une galère » parce que c'est ainsi qu'on appelait ces bateaux, c'était des galères. On ramait, n'est-ce pas? Et le texte dit qu'ils avaient côtoyé à peine et ils étaient à peine arrivés à un lieu appelé Beauport. Ah, quelle belle invitation! On pourrait se dire finalement, voilà, on est rassuré. Mais ce n'est pas le nom qui va déterminer la capacité ou la qualité du lieu qui nous accueille. Et parfois, on peut être tenté par un nom, par une chose, à chercher un signe de la part de Dieu. Vous savez, un jour, une personne m'appelle et m'explique toute une situation. Et elle me dit, vous savez, pasteur, voilà, j'ai fait tel rêve, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'était une histoire qu'elle avait eue dans son passé, avec un homme. Elle avait trompé son mari, avec cet homme. Et pendant ce rêve, elle avait l'impression que cet homme lui parlait de Dieu. Elle me dit, selon vous, est-ce que c'est un signe, je peux retourner vers lui? Je lui dis, vous savez, Satan s'est bien cité la parole de Dieu. Gardez-vous d'une telle chose. Gardez-vous d'une telle action. Ce n'est pas ainsi que Dieu voit les choses. Mais dans sa tête, dans ses pensées, elle avait essayé d'interpréter les choses, excusez-moi, selon ce qui lui convenait le plus. Et pour autant, ce qui fait foi, c'est la parole de Dieu. Maintenant, toujours toute chose en parallèle à la parole de Dieu. Dieu ne se contredit jamais. Vous entendez? Est-ce que je peux vous entendre dire Dieu ne se contredit jamais? Vous êtes sûr? Parce que vous êtes obligé après à le pratiquer. On ne peut pas dire je vois ça, mais Dieu dit comme ça, mais est-ce que moi je vois, c'est mieux. Ah non. Dieu ne se contredit jamais. Le texte nous dit qu'ils avaient vu que le temps était long et s'était écoulé, et donc Il dit, l'apôtre Paul, le jeûne était déjà passé. La vie de l'apôtre Paul était rythmée par sa consécration et sa vie de prière avec Dieu. Il y avait des temps et des moments particuliers dans la vie de l'apôtre, comme ils doivent être aussi les nôtres. Nous avons des temps de rendez-vous avec Dieu. Amen. On a des moments privilégiés avec Dieu. Moi, j'ai horreur quand quelqu'un donne un rendez-vous, il ne vient pas. Je ne sais pas vous si ça vous convient. Hein? Vous êtes là, vous êtes préparé, peut-être vous êtes même levé tôt parce que vous saviez qu'à telle heure, il venait, vous êtes là, vous avez bien mis en route votre machine à café, vous êtes heureux, vous êtes bien parfumé, lavé et tout. Vous guettez par la fenêtre, vous voyez le facteur passer, la première, la deuxième, la troisième fois. Et après, vous dites, ben, c'est bon, il a oublié. On est déçus, hein? Non? Et peut-être vous appelez, vous envoyez un petit message, pas de réponse tout de suite, mais plus tard. Ah, pardon, j'ai eu autre chose sur le cœur et je suis parti faire autre chose. Eh bien, vous savez, c'est comme ça parfois qu'on fait avec Dieu. On prend un rendez-vous, on prend un engagement avec Dieu, et après on lui dit, tu sais, je suis parti faire autre chose. Alors, vous inquiétez pas, le Seigneur s'occupe. Hein. Il a de quoi faire, non? Mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas loupé une occasion? L'apôtre Paul dit, le temps du jeûne était passé, et il connaissait aussi, il avait appris, puisqu'il voyageait beaucoup, à saisir les bons moments, les bons courants, savoir à quel moment il faut partir, à quel moment il faut s'arrêter. Et dans notre vie, on doit apprendre à dire, Seigneur, quel est le moment où je dois partir et où je dois m'arrêter? Le peuple d'Israël n'avançait pas si la nuée n'avançait pas. Il s'arrêtait quand la nuée s'arrêtait. Et nous, parfois, excusez-moi, on est un peu sur le TGV de la vie. Je vais où je veux, comme je veux, si je veux. Et le Seigneur te met un drapeau, je ne le vois pas. Un panneau, je ne le vois pas. Un feu rouge, je le grille. Et après, je me prends un mur. Seigneur, je ne comprends pas. Mais va voir ton ophtalmo. Non ? Mais oui. Va voir ton ophtalmo, faire offert tes lunettes, mon fils. Parce que je t'ai tellement averti, tu n'as rien vu, tu as foncé droit dans le mur. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passera avec cette histoire. L'apôtre Paul leur donne un avertissement, dit le verset 10. Paul ordonna cet avertissement. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Mais, qui n'est pas le mois de l'année, c'est ces petites phrases qu'on met dans nos phrases. Mais, le centenier se fia au pilote et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de l'apôtre Paul. Et combien de fois on peut tenter de suivre les paroles des uns et des autres, excusez-moi, qui nous mènent en bateau, alors que Christ veut nous amener au salut. Ah, viens avec moi. Mais quel était le fond du cœur du capitaine du navire? C'était quoi son but? Gagner de l'argent. Il devait arriver jusqu'au bout pour finalement retirer son salaire. Et malheureusement, le centenier, il écoute. Faisons attention quels sont les mobiles qui peuvent parfois être à l'origine des conseils qui nous sont donnés. Je dirais que seul Dieu a le bon mobile. Amen. On continue. Au verset 13, il dit « Un léger vent du sud devient soufflé. » Ah, Seigneur, qu'est-ce que c'est beau. Vous avez déjà été à la mer? Vous avez repris à aller à la plage? Quand il y a le soleil qui tape bien fort, 27 degrés. Alors il y a ce petit vent qui vient et qui souffle et qui fait du plaisir. Vous ne sentez pas le soleil piquer sur la peau. Ça sera pour plus tard. Au retour à la maison. Là où en effet, malgré que la lumière elle est éteinte, une très forte lueur rouge remplit la pièce où vous êtes. Et elle se déplace avec vous là où vous allez. Et là, vous vous rendez compte que ce n'est pas votre téléphone, mais c'est vous qui clignotez. Et oui, là encore une fois, il y a ce petit vent qui est léger, qui pourrait dire, mais tu vois, tous les signaux sont verts, vas-y. Ce qui t'est dit par la parole de Dieu, ce qui t'est dit par la prédication, ce qui t'est dit, peut-être, même par le pasteur, ne l'écoute pas. Le vent est bon, il est paisible, ça sera une balade. Tu y arriveras. Eh bien, c'est ce qu'ils se sont dit. Ils pensaient être en mesure d'exécuter leurs projets. Et vous savez, nos projets avec les projets de Dieu, parfois, il y a une grande différence. Puisqu'il dit au verset 14, « Mais bientôt après, venant de l'île, un vent de tempête, appelé Héraclion, se déchaîna. » Alors, c'est là que vous comprenez le message de vendredi. En voyant ce vent qui soufflait, mais qui a commencé au départ par un petit vent léger. Et je me suis dit dans ma tête, imagine quelqu'un aujourd'hui qui a pris sa planche à voile pour se faire plaisir. Et là, avec le vent qu'il y a, le gars, il ne peut plus s'arrêter. Hein. Là, on va le retrouver de l'autre côté du globe. Ah, il ne peut pas freiner, hein. Ça souffle. Et il y a des situations dans notre vie, une fois qu'on s'est mis dans la situation, c'est un engrenage qui ne s'arrête pas. C'est terrible. Je me rappelle d'un temps avec mon papa, on avait une machine, vous savez, pour faire les imprimés pour l'église. Ce n'était pas les machines automatiques, électroniques et tweak qu'on veut. C'était à la main. On devait faire une plaque, on mettait par écrit dessus et on faisait notre acte comme ça. Et vous étiez là à la manivelle. Hein, et vous sortiez une copie à la fois, vous rajoutez de l'encre et encore une fois, et vas-y. Et ce qu'il fallait faire toujours attention, c'était de ne pas laisser la cravate s'enfiler entre les tambours, parce qu'autrement, vous aviez l'imprimé sur vous. Et donc, la cravate, elle passait à l'arrière ou elle rentrait dans la chemise. Et il fallait vérifier, c'était un danger. Et comme mon papa a fatigué, il disait, ben, c'est toi qui tournes la manivelle. J'ai dit, mais toi, fais gaffe à ta cravate. Et vous savez, dans notre vie, il y a des moments où on ne fait pas attention, mais il y a des choses qui nous amènent dans un danger qu'on aurait pu s'éviter. Une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage, c'est dur d'en sortir. Et on n'a pas écouté avant. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le texte nous dit qu'ils ont perdu tout ce qu'il y avait sur le navire et même le navire. Dieu nous demande après d'assumer nos responsabilités. Ils pensaient tout gagner. Ils ont tout perdu. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Les matelots du navire. Et encore. Et encore. Mais financièrement, ils ont eu combien dans leur poche? Et le capitaine? Et le commandant? Tellement d'espérance. Et encore, ils ont dû trouver même quelqu'un pour les rapatrier. Quel retour au pays. Quel retour chez soi, les mains vides. Le texte nous dit que, secoué fortement, verset 18, par la tempête, ils ont dû faire le choix de tout jeter. Au verset 20, il dit, ni le soleil ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours. Et la tempête se maintenait si fort que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. Je vous laisse imaginer la météo. Et vous savez, sur ces navires, il n'y avait pas de GPS. Tout se faisait à l'orientation par les étoiles, le soleil, la lune. Il y avait besoin de ces éléments, ces luminaires. Donc, plus aucune de direction. Et spirituellement, quand on s'éloigne de ce que Dieu nous demande, il y a un moment, tout devient noir. T'as beau chercher de dire, Seigneur, comment je vais m'en sortir ? Le seul choix que tu as, c'est de crier à Dieu et d'espérer dans le secours de Dieu. Je voudrais terminer cette réflexion avec vous. Le texte nous dit au verset 21 qu'ils avaient même arrêté de manger. Telle était la situation. Ce n'est pas évident de manger de la soupe quand le bateau... Pas facile. Il faut être vraiment capable avec la cuillère de rattraper tout ce qui sort. On perd l'appétit. Moralement, on est atteint. On peut voir même tomber en dépression parce que rien s'est déroulé comme on l'attendait. Et là, parfois, encore une fois, on dit, mais Seigneur, pourquoi ? Alors, je vous rappelle la parole du Seigneur qui est celle de revenir à lui, de chercher auprès de lui la sagesse. L'apôtre Paul se mit debout au milieu des hommes. Quel courage ! C'était quoi la responsabilité de l'apôtre Paul sur le navire ? Il était quoi ? Malgré lui. Et peut-être que dans le lieu où vous travaillez, vous n'avez pas forcément voix en chapitre. Peut-être dans votre famille, vous êtes celui qui est le moins écouté, peut-être même le prisonnier, celui ou celle qui est toujours derrière les fourneaux. Ça va rappeler peut-être certaines choses. Non ? On n'est pas écouté. La famille, elle ne croit pas dans le Seigneur, elle ne croit pas en Dieu, nos paroles ne sont pas prises, mais il y a un moment, vous savez, où Dieu nous permet de nous tenir debout. Mais pour nous tenir debout, il faut être sûr de dire ce que Dieu veut qu'on dise. Autrement, vous savez, on est vite couché. Hein. Et là, l'apôtre Paul, il dit, debout au milieu des hommes, leur dit, vous auriez dû quoi ? Moi, j'ai une autre version. Et le mot n'est pas écouter. C'est obéir. Quelle autorité pour l'apôtre Paul de prisonnier de dire « Vous aurez dû m'obéir ». Mais en réalité, c'était lui qui représentait l'autorité spirituelle, qu'on le veuille ou pas. Et à certains moments, l'apôtre Paul utilisera de cette autorité de Dieu pour leur parler d'une certaine manière. Et leur dira au verset 22 maintenant, « Je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie, seul le navire sera perdu. » Et d'où venait le message pour Dieu, de la part de Dieu pour l'apôtre Paul ? Verset 23, « Un ange de Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est approché de moi cette nuit. » Amen. Qui voudrait voir un ange s'approcher de lui ? Oui ou non ? Sûr ? Ça peut quand même faire un petit choc, non ? On pourrait se dire, mais un ange, à côté de moi ? Une chose qui me traverse l'esprit, mais je ne la dirai pas. Bon, allez, je le dis quand même. Comment il est appelé le pasteur dans les lettres aux églises ? L'ange. Je n'irai pas plus loin. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et je rends un culte. Les circonstances n'avaient pas empêché l'apôtre Paul de rendre un culte à Dieu. Frères et sœurs, même au cœur de la tempête, continuons à rendre un culte à Dieu. Continuons à avoir cette relation avec Dieu et être aussi assurés de notre appartenance à lui. On lui appartient. L'apôtre Paul se revendique à Christ. Amen. N'ayons pas crainte de nous approcher de Dieu. Il dit, il s'est approché de moi cette nuit. Il m'a dit, sois sans crainte, Paul. Il faut que tu comparaisses devant César. Certainement, ça aurait été peut-être plus simple de mourir là pendant ce naufrage que paraître devant César. Les peines et les difficultés qui allaient arriver étaient bien plus grandes, plus douloureuses pour l'apôtre Paul. Mais il y a un plan de Dieu. Et Dieu accomplit toujours ses plans, n'est-ce pas ? Et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. Waouh ! Frères et sœurs, nous pouvons non seulement vivre nous, par la grâce de Dieu, mettre un moyen de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Peut-être qu'il y a des entreprises où vous travaillez aujourd'hui, c'est en danger. Mais je crois que Dieu est capable de faire grâce à toute l'entreprise à cause de vous. Mais tenez-vous debout et tenez-vous au pied du Seigneur. N'ayez pas peur. Laissez la tempête souffler, Dieu s'en charge. Gardez vos yeux fixés sur Christ. Et par amour du Seigneur pour vous, il vous accordera la grâce pour ceux qui naviguent pour vous. Waouh! C'est pourquoi prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a dit. Frères et sœurs, nous pouvons compter sur le secours de Dieu dans la mesure où nous lui obéissons. Nous pouvons être des messagers de la bonne nouvelle, mais dans la mesure où nous l'écoutons. Nous pouvons être communicateurs de foi dans la mesure où nous vivons et marchons par une foi enracinée en Christ. Amen. Il nous reste le choix à chacun d'entre nous de vivre au gré des vents ou de plaire à Dieu. Je ne peux pas choisir à votre place. Vous ne pouvez pas choisir à la mienne. Mais je vous invite et je nous invite à incliner nos têtes et prier. Seigneur Jésus, sois adoré. Sois glorifié, Seigneur. Seigneur, aide-nous à ne pas nous laisser, Seigneur, amener, Seigneur, par les courants de ce monde. Seigneur, aide-nous à ne pas tomber, Seigneur, esclaves à tout vent de doctrine. Seigneur, mais à rester enracinés, Seigneur, dans cette foi authentique, dans cette parole, Seigneur, qui est la tienne, la parole de Dieu, la Bible, qui n'est pas au gré des interprétations humaines, mais Seigneur, qui doit être, Seigneur, le désir personnel, et une attente personnelle à nous laisser enseigner par le Saint-Esprit. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Seigneur, si par moments nous nous sommes laissés peut-être envahir par la pensée du monde, par les mauvais conseils qui nous ont été donnés, même si ils semblaient être bons, Seigneur, aide-nous à faire marche arrière. Aide-nous à ne pas monter sur ce bateau qui va, Seigneur, être pour nous la pire catastrophe connue. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous accrocher à toi et à chercher auprès de toi la bonne direction pour notre vie. Seigneur, l'apôtre Paul a été un instrument entre tes mains parce qu'il a toujours gardé sa vie, son âme et son esprit entre tes mains. Il n'en a pas repris le contrôle. Il l'a laissé entre tes mains. Et c'est pour cela, Seigneur, que tu lui as accordé non seulement le salut, mais tu lui as accordé aussi d'être un moyen de bénédiction pour ceux qui étaient avec lui sur ce navire. Seigneur, nous te prions d'être nous aussi, Seigneur, à l'image de l'apôtre Paul, même plus, à l'image de Christ. Seigneur, capable de nous tenir debout, comme Christ s'est tenu debout à la croix. Seigneur, que nous puissions être capables d'être non seulement de salut pour nous-mêmes, Seigneur, mais de salut pour le monde. Car c'est au bois de la croix, Seigneur Jésus, que tu nous as sauvés. Seigneur, et c'est à cette croix que tu nous as donné un message d'espérance. Et Seigneur, cette espérance, nous désirons qu'elle soit ancrée en nous et que rien et personne, Seigneur, ne puisse nous retirer de cette présence et de cette relation que nous avons avec toi. Seigneur, garde-nous. Seigneur, et amène-nous à être sensibles à ta voix. Seigneur, guéris nos cœurs et guéris nos yeux pour que nous puissions voir les avertissements, entendre ta voix et agir en conséquence. À toi, Seigneur, et à toi seul, on revient toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Elle est belle la parole de Dieu. Hein? Et la parole de Dieu nous dit que tout nous a été donné pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous reprendre. Moi j'aime bien lire la parole de Dieu, imaginer les choses et des fois je me dis Seigneur, ah, tiens, il y a ça. C'est important de lire la parole de Dieu, c'est important de nous laisser aussi travailler par la parole de Dieu. Alors je disais à quelqu'un cette semaine, le tout, c'est pas de lire 50 chapitres par jour. Des fois, un verset suffit à entretenir notre tête toute la journée et peut-être même toute la nuit, jusqu'au moment où le Seigneur nous fait comprendre et nous nourrit par cette parole. Amen. Quelques nouvelles avant de nous quitter avec un chant. Juste vous rappeler que donc mardi, nous avons notre temps de réunion.